Et vous écoutez France Culture. Et c'est en vain qu'on veut ramener vers la culture des pensées qui ne sont tournées que vers la fin. Antonin Artaud. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Un brelan d'excommuniés ce soir à mauvais genre qui dira tout le bien possible de Ciné, dont les mémoires reparaissent en deux somptueux volumes aux éditions Cahiers dessinés d'Antonin Artaud, à qui l'entrée dans le domaine public vaut et ses merveilles toute une série de reparutions, dont celle préfacée par Paco Mthielman du théâtre et son double, et d'Alfred Jarry, dont une biographie remarquable signée Alastair Brocci paraît aux presses du Réel. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre. Vous écoutez non pas France Fin, mais France Culture. On pourrait appeler la chaîne France Fin, ce serait quelque chose d'assez étonnant. La fin de culture, la fin d'information, la fin d'analyse. Je serai ce soir en compagnie de Delphine Deton. Comment va-t-il ?
Comment je vais ?
Bonsoir, voilà.
Je vais bien.
Il va bien ?
Merci, oui.
Précédent passage à Mauvais Genre, c'était pour parler de Sonra.
Ah oui.
Depuis, vous avez écouté Sonra ?
Oui.
Régulièrement ?
Il y a encore pas très longtemps, oui.
Et quoi ?
Il y a de plus en plus de gens qui écoutent Sonra. On s'est beaucoup moqué de moi. Hein,
Non, contrairement. Peut-être à l'époque, mais
tombé,
nous, non.
Je suis tombé l'autre jour sur mon ordinateur, j'ai retrouvé un dessin de Volinsky, qu'il avait dû me filer comme ça, là. Et c'est un mec à lunettes, comme ça, qui tient un disque vinyle contre son oreille et a écrit en dessous Delphine Deton écoutant Sonra.
Delphine Deton, l'homme qui aime Sonra. Soyez le bienvenu à Mauvais Genre. Et le rire est de Paco Mthielman. Comment va-t-il ?
Rire égyptien.
Rire égyptien.
Ça va très bien.
Il va bien,
Paco ? Oui, très bien. Rien entre Sonra et Artaud, d'ailleurs, l'Égypte.
Ah bah tout à fait. Actualité de Paco Mthielman.
Actualité, ah oui. Lundi, pour nos auditeurs.
Voilà, si vous êtes à Paris, lundi.
Si vous êtes à Paris lundi, au cinéma soir. MK2 Beaubourg, à
19h35,
il y a une projection de ce film incroyable qui est Funeral Parade of Roses de Matsumoto.
Funeral des roses de Matsumoto.
Et ce film-là, qui sort en salle, en fait, pour la première fois en France, puisqu'il était inédit en France, qui est un film très étranges, très inspiré par Genet, par
Artaud
d'ailleurs, tout à fait, tout un univers, c'est une sorte de reprise d'Oedipe Roy, mais dans le milieu homosexuel japonais, un film de 68, si j'ai pas de bêtises, et donc cette ressortie en salle de ce film de 68 est accompagnée par Stéphane Duménildo, notre ami, qui est d'ailleurs passé dans Mauvais Genre il y a deux ou trois semaines, je sais plus exactement, il y a très peu de
et
temps,
et on le salue,
et qu'on salue fraternellement. Et Stéphane, du coup, a décidé de s'accompagner de ses amis et à qui il a vendu ce film et au combien. Donc, Bertrand Mandico, au moment où vous écoutez cette émission,
le présente
est en train de présenter au Quartier Latin Funeral Parade of Roses. Et moi, j'accompagne Stéphane lundi.
Alors, c'est lundi, 19h35, au MK de Beaubourg. Si vous êtes à Paris, surtout, ne vous gênez pas. Et sinon, une actu, pas comme Mthielman dans Philosophy Magazine.
Ah oui. Bon, ça, c'est vraiment le mindfuck total. Mais quoi?
Ça leur fera plaisir.
Non, mais je suis très heureux. Je les remercie vraiment. Mais quoi? Dans Philosophy Magazine, dans chaque numéro, je crois qu'ils demandent à une personne, comme ça, quel est le philosophe qui les a accompagnés, leur a appris des trucs et tout. Et donc, j'ai choisi Sora Vardy. Donc, ce mois-ci, en mars, le numéro de mars de Philosophy, il y a Ma Pomme qui parle de Sora Vardy sur 5-6 pages.
Voilà.
Bon, c'est une interview, hein, mais une interview sur Sora
Vardy.
Oui,
c'est une interview assez nourrie. Merci, Paco. Mais donc, bienvenue à Delphine Deton. On va maintenant s'enseigner, à se tourner vers notre grande enseignante, Céline Duchesnay. Et où ce soir nous emmenez-vous, Céline ?
Eh oui, ce soir, c'est un lieu. C'est un lieu et c'est un cabaret décadent.
Je descends les escaliers. Et là, je me mets à quatre pattes et là, j'avance tout doucement. Il y a Otomo, le maître de cérémonie, qui passe autour de moi et qui me dit « Non, mais plus, Cambrai, plus. » Et à ce moment-là, je me dis toujours « Je pense que je vais me casser la colonne. » Si j'arque plus, je vais me casser la colonne. Et depuis là, ça commence tout tranquillement. J'arrive au milieu et je lève la jambe droite. espèce de, d'aiguille. Puis après ça, je me mets à plat ventre, je roule. Je fais une espèce de position où j'ai genre les fesses en l'air. Et puis ensuite de ça, je fais un pont. Je tourne autour de la scène. Là, en général, ça dépend des soirs, comment je me sens, qui est-ce qui est là en face de moi sur la table. Mais des fois, je prends un petit verre, deux petits verres vers une personne du public. Et ouais, voilà. Et après, normalement, je vais chercher Mathieu dans le public. J'aime bien. Je me sens entre le chat et le tigre. Mais pas très tigre quand même, un peu plus réservé quand même, du coup un peu plus chat. J'assume pas encore l'inventaire.
La panthère est belle sur la piste de cirque, elle électrise le public, cambrure maximale pour un effet animal des plus saisissants. Constance Bugnon, circassienne, tout aussi à l'aise à 6 mètres de hauteur sur un machinois qu'en félin de velours, est l'une des artistes de ce cabaret décadent. Cabaret décadent, c'est bien le titre de la nouvelle revue du Cirque électrique, un titre qui donne le ton de cette revue érotique qui mêle acrobatie circassienne et sensualité des corps et des numéros. On y croise des créatures au genre fluide, des femmes qui marchent la tête en bas, des hommes qui dansent dans des cerceaux, insoumis dont l'endurance et le seuil de souffrance est régulièrement mis à l'épreuve. Et il y a aussi Pierre Plévent, artiste qui pratique l'effeuillage et la pole dance et qui porte haut le talon 15 cm au bas mot pour courir, danser, sauter et s'effeuiller. Un accessoire, des talons qui font partie de son quotidien et qui le rendent encore plus troublant lorsqu'il apparaît en kimono de soie, perruque aux longs cheveux roses bonbons, semblant tout droit sortir d'un manga japonais.
Cette semaine, j'ai qu'un numéro, j'ai des bottines, des guêtres. Bottines guêtres à talons, des cuissardes plutôt, et je suis habillé en geisha robotique. J'arrive en tâtonnant vraiment avec mes talons, et puis je m'effeuille tout doucement, et puis je danse un peu, je bouge, je saute, je fais des tours de 360 au sol, voilà, dans une attention où je sors de ce robot, où je deviens plus fluide dans le corps, pour revenir à quelque chose de cassé, je suis sexy, mais du coup bah le robot reprend un peu son rôle et pète les plombs et part dans tous les sens et voilà quoi, c'est ça que je fais de mes talons là pour l'instant.
Un effeuillage de garçon, qu'est-ce que ça fait de le faire?
Oui, c'est connoté fille, c'est pas comme ça que je le vis, mais c'est connoté fille, ouais. Le truc sur celui-là, c'est que je m'effeuille en de gaïcha à quand même un garçon qui est en talons, poum poum short, satiné, et dans une attitude hyper fluide justement entre la féminité et le corps, on va dire, assez sec et tendu, animal, comme une petite bête un peu sauvage quoi, donc, et pas dans la masculinité, donc je me transforme pas en fait en garçon du coup. Donc je reste dans ce truc, dans cette attitude féminine, enfin plutôt fluide quoi, fluide vraiment.
Alors être une geisha?
Geisha dans ce que j'amène, c'est assez drôle parce que la sexualité de la geisha la geisha est quand même très enviée. Dans l'histoire c'était vraiment ça quoi, c'était la pureté tout ça, mais très enviée, on le disait pas, mais c'était très enviée, très sexualisée d'une certaine manière, toujours avec un léger effeuillage de l'épaule, tout ça. Et moi, en fait, j'arrive et j'éclate complètement le truc. Wow, je sors, c'est presque SM parce que je suis corseté, avec les cuissardes. En fait, je reprends le contrôle de mon esthétique, en fait, qui appartient à la culture japonaise, donc ça, c'est marrant. Ouais.
Et vous, quel est votre regard sur cette geisha, Constance?
Alors, c'est drôle parce que je l'ai vue évoluer. Elle a commencé sans... elle avait juste le kimono, la geisha. Et là, franchement, avec la perruque et puis les deux couettes sur la tête, ça donne vraiment une esthétique hyper intéressante. Je l'aime bien, la geisha.
Constance Bugnon, la créature chat, et Pierre Plévent, la créature geisha, sont à retrouver au Cabaret Décadent, revue électrique numéro 69, qui se tient en ce moment au Cirque électrique à Paris, à voir jusqu'au 30 mars 2019.
Voilà, merci Céline pour cette actualité. Cirque électrique, vous fréquentez les cabarets décadents d'Elfeuille de Thon?
J'ai fréquenté le Cirque électrique il n'y a pas longtemps. C'était pour le 10e anniversaire de Ciné Hebdo, Ciné Mensuel.
Oui, bah très bien.
La fête a eu lieu au Cirque électrique.
Et alors?
On peut louer le Cirque électrique et ils font restaurant. Ça. Je fais la pub. Hein,
pour ça. Bien,
parce que c'est des gens très sympas et l'endroit est extraordinaire pour recevoir beaucoup d'invités. Quoi. C'est vraiment très bien. Puis, bon, les...
Très bien, bah on témoigne de ce qu'on vient d'entendre.
C'était pas prévu dans la chronique.
Hein, non, merci, grâce à
je donne
Céline.
Les bonnes adresses de Paris.
Également bonnes adresses de Marseille, Céline.
Oui, il y a un événement en ce moment qu'il ne faut pas rater. C'est la Semaine des Magies qui se tient à Marseille jusqu'au 3 mars. Donc, une thématique par soirée. Par exemple, lundi soir, vous avez une soirée qui est consacrée à la magie et à la déconstruction politique. On a quoi? Mardi, divination. Mercredi, magie à l'ère du capitalisme sauvage. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Jeudi 28 février, ethnobotanique magique. Donc, tout un tas de thématiques tout à fait sympathiques et instructives. Et demain, pour ceux qui sont là en journée, c'est une journée filmique qui est consacrée donc à des documentaires et des films qui ont trait à la magie. Et vous avez notamment les films de Camille Dusselier qui seront visibles en sa présence. Donc, Sorcière mes sœurs, Sorcière Wicca, Sorcière queer. Donc, il est temps d'aller à Marseille au plus vite.
Très bien, merci Céline. J'entendais parler de magie et de déconstruction politique. Et bon, elle va être tout à fait au programme ce soir de Mauvais Genre, qui s'intéresse d'abord aux mémoires de ciné.
Oui, mais moi je pense comme ça. Je pense que les gens sont ou très vilains ou très gentils. Je ne crois pas qu'il faille faire des fleurs aux gens vilains.
Jusqu'où on peut aller trop loin?
L'idéal pour moi, ce serait d'avoir une mitraillette ou un bazooka. Pour l'instant, je m'exprime en dessin. Je crois qu'on ne peut jamais aller trop loin. Les quelques risques que j'ai pris sont minimes, à côté de ceux que j'aurais dû prendre si j'étais conséquent avec moi-même. Enfin.
Donc, si vous voulez, le dessin, pour vous, reste encore une arme relativement faible?
Oui, mais c'est la seule que j'ai à ma disposition. Alors j'en profite bien sûr le plus que je peux. Mais mon rêve, je vous dis, ce serait d'être dans les maquis et avec une mitraillette sur le dos. Bien sûr, les gens me disent, mais pourquoi tu vas pas?
C'est ça, oui. Hein? On pense ça évidemment, inévitablement, on pense à ça. Ah,
et alors? Ouais, parce que je me vois pas très bien en Bolivie, à côté de Che Guevara, ou au Venezuela, non? Ce sont des gens avec lesquels j'ai pas de contact, je parle pas leur langue. Et de toute façon, leur problème n'est pas le mien.
Vous n'êtes pas un ultra dans votre genre?
Si, je suis à l'ultra, mais je suis l'ultra. En général, on traite d'ultra les gens de droite, moi je suis un ultra de gauche.
C'est ça, les gens, disons, excessifs dans un domaine ou dans un autre.
Moi, je ne crois pas être excessif. Hein. Je ne suis pas dessinateur, je n'ai pas une vocation de dessinateur. Hein. Je n'ai pas de feu sacré. Je ne suis pas artiste du tout dans le sens qu'on accorde en principe à ce terme. Je me considère plutôt comme militant politique que comme dessinateur. Je pourrais très bien faire du cinéma, faire de la radio comme vous êtes en train de le faire. En me sentant toujours aussi bien dans ma peau. Ce qu'il faut, c'est, enfin, pour moi, dénoncer les vilaines choses qui se passent comme ça du matin au soir et qui continuent de se passer et qui s'amplifient au contraire, je crois.
Voilà, ciné, un document, Inad, une feuille de ton, une réaction à ce qu'on vient d'entendre.
Ça a 50 ou 60 ans. Là,
ah oui, facilement, ça date des années 70.
Ah oui, c'est ciné de l'époque Fidel Castro et tout ça. Ouais, il en était revenu de Fidel Castro. Hein. Et il en est revenu même très vite.
Voilà, non, mais quand il dit qu'il
restés,
est.
Mais lui, il s'est barré vraiment très vite.
Mais quand il dit qu'il n'est pas fondamentalement dessinateur, qu'il est plutôt militant, que c'est un ultra et qu'il utilise la plume ou le crayon, faute de pouvoir utiliser la mitraillette, vous le croyez? Vous qui l'avez bien connu.
Ciné est un type qui, quand il parle, est toujours dans l'excès. Mais un excès complètement assumé. Je dirais pas que c'est une attitude, mais c'est sa façon de dire les choses. Quand il dit j'ai pas de mitraillette ou j'ai une mitrailleuse, je sais pas quoi à ma disposition, je vois pas Ciné avec une mitraillette, une mitrailleuse. D'ailleurs, il a fait l'armée, il a jamais touché, il a fait comme
oui,
moi.
Il a jamais touché
une arme. Et moi, j'ai fait comme lui d'ailleurs. Mais quoi, moi, je me balade pas en disant si j'en avais une, je m'en servirais. Je m'en servirais pas, mais lui non plus, il s'en servirait pas. Et son crayon, il a fait mille fois plus de choses avec ses dessins pendant la guerre d'Algérie, puisque c'est l'essentiel de son action politique, en gros, quoi. Hein. Mmh. Bon, là, il a joué un rôle. Il faisait partie des porteurs de valises, des soutiens au FLN. Il y avait les occupants contre les résistants. Les occupants, c'était les Français. Les résistants, c'était les Algériens. Il a eu l'action politique, mais le reste du temps.
Alors pourquoi ciné ? Eh bien parce que les cahiers dessinés qui nous ont, c'est le cas de le dire, qui nous ont souvent apporté des merveilles. Il y a récemment un tome 2 consacré au grand dessinateur italien Buselli qui vient de paraître. Et là, eh bien ciné est véritablement honoré avec un monument en deux volumes, puisque ses mémoires, qu'on avait pu lire avant en fascicule, en kiosque, qu'on pouvait lire, acheter régulièrement, eh bien ont été rassemblés en deux épais volumes sous coffret, pas comme tiellement, avec des inédits, des facsimilés. C'est une véritable merveille. Et donc on peut avoir là la vie de Ciné qui a commencé en 1928, s'est achevée en 2016. Et là au moins on a cette existence sous tous les plans, sous le plan à la fois des idées, sous le plan de l'action, sur le plan de l'amour, sur le plan de l'amitié, sur le plan du travail, sur le plan de la réflexion artistique. Toutes les dimensions de la vie de Ciné nous sont livrées dans ces deux énormes volumes qui étaient avant de petits fascicules fondus en deux gros volumes. Et j'avoue que c'est quand même une découverte, pas comme tiellement, puisque là on voit Ciné écrivain.
Oui, c'est assez hallucinant, une fois recueilli comme ça. Ça me fait penser, première chose, ça me fait penser, parce que c'est des livres qui sont très, c'est énorme. Hein, je les ai portés pour venir à la radio, juste pour le plaisir, quoi, de voir à quel point c'était gros, lourd, énorme, invraisemblable, ces mémoires de Ciné. Et c'est une des phrases qu'Havana avait dit, je crois, un mois ou un mois et demi avant de mourir, qui était, c'était au sujet de la réédition de l'ensemble des sales blagues de Villemain, seul volume, et il avait fait comme remarque, lire est devenu un plaisir d'haltérophile. Et là, on y est vraiment.
Ben, je suis pas d'accord du tout.
On n'est pas d'accord.
Non, je suis pas d'accord parce que, effectivement, c'est impressionnant à voir, mais quand on le lit, il est léger dans
les mains. C'est vrai qu'à la lecture, c'est léger.
Je le dis sans vouloir faire du paradoxe. Moi aussi, j'avais peur. mais franchement, non. Franchement, non. Quand on le tient, à aucun moment pendant la lecture, on ne se dit j'ai les bras qui fatiguent ou quoi.
Non, c'est on n'est pas du tout embarrassé.
C'est un in-octavo léger comme une plume, c'est entièrement manuscrit.
Oui. Alors, l'autre, deuxième élément, c'est qu'on s'aventure pour, devant nous, presque un millier de pages écrites à la main. Bon, on connaissait les volumes de Ma vie, mon œuvre, mon cul, parce que c'est comme ça qu'ils étaient publiés, Ma vie, mon œuvre, mon cul de Ciné, et c'était par petites touches, quoi. Donc on pouvait se demander, mais à lire, ça se lit d'une traite, c'est-à-dire que vraiment on commence les mémoires de Ciné et on ne s'arrête pas, je veux dire, on passe pas à un autre bouquin tant qu'on ne les a pas terminés. C'est tellement passionnant et c'est tellement la vie est passionnante et elle est extraordinairement bien raconté et c'est extrêmement bien imprimé. Là, c'est très très beau. C'est sur du beau papier. C'est une sorte d'œuvre d'art. Même l'édition du livre en soi est une œuvre d'art. C'est une splendeur. Et aussi autre différence hein, par rapport aux éditions qui étaient en petit volume, c'est il y a la couleur aussi qui a été ajoutée. Donc des inédits, une très belle mise en couleur, tout est fluide, tout est.
Alors ces mémoires, bien évidemment, à la première personne, avec une gouaille, un lyrisme, une émotion permanente, une grande fluidité d'écriture, qui permet à Ciné de nous raconter, eh bien, la première personne du singulier, sa vie, depuis le début jusqu'à mai 68, avec une sorte de régularité en même temps. On sent qu'il est, c'est vraiment le flux d'une existence. On n'est pas, rien ne nous est épargné, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on voit vraiment les moments forts, mais également le quotidien de Ciné.
C'est vrai, Tout à fait. On voit le quotidien de ciné, on voit les changements d'appartement, on voit les voisins, on voit aussi des petits épisodes. Des fois même, on a l'impression qu'ils se souviennent des plats qu'ils ont mangés. Bon, alors c'est surtout en Chine, hein, ça c'est vrai, parce que bon, il y a des trucs spectaculaires. Mais si on commence déjà, rien que les mémoires, on voit les souvenirs de ciné sont d'une extrême précision, et c'est d'une drôlerie, Donc la femme, ça commence avec la famille, mais Delfeuille, je pense peut aussi en parler. Les portraits des parents, de la grand-mère, merveilles.
Réaction du lecteur Delfeuille de Ton.
On parle du bouquin. Bon, le bouquin, il s'appelle Mémoire. Tu as rappelé tout à l'heure que c'est Ma vie, mon œuvre, mon cul. Alors ça, il aimait pas du tout ce titre.
Ah, c'est vrai.
Quand on lui a demandé de raconter ses histoires, quoi, bon, un peu comme quand à Rakiri, on avait dit à Cavana, mais raconte-nous tes histoires, et ça a donné les Ritals. Bon, ciné, ça a donné ça. Et alors, lui, et c'est lui qui me l'a dit, hein. Bon, ma vie, mon œuvre, mon cul. Bon, tout le monde, c'est ça le titre. Mais ça lui plaisait pas. Et avant de mourir, il y avait deux choses qu'il voulait. Premièrement, que ça soit réédité. Deux, que ce soit pas Jacques et pas un autre, c'est-à-dire les cahiers dessinés. Et trois, que ça s'appelle Les Mémoires. Pas autrement. Le Ma vie, mon œuvre, mon cul, c'était, comment dire, un avatar.
Faux titre.
Oui.
Alors, ciné, au fil de ces deux volumes de mémoire de près de 800 pages, on va jusqu'en mai 68, c'est-à-dire c'est les 40 premières années de sa vie. Il est né en 1928 et on a déjà un extraordinaire Paris, de portrait du Paris de l'avant-guerre. Puisque Ciné grandit dans le quartier Barbès, rue du Delta, dans une famille qui est quand même extrêmement étonnante, puisque son père, qui est forgeron, qui est un ancien bagnard couvert de tatouages, est déjà un personnage très étonnant, qui fait la conquête de sa mère, on peut le dire, dans un escalier, cette dame à l'époque étant tenancière d'une petite gargote. Donc le couple des parents de Ciné est compliqué, puisque sa mère est mariée, donc il y a un divorce.
Ciné porte le nom de ce... Voilà. Président Marie de sa mère. Oui.
Donc là déjà, il y a toute une situation familiale assez extraordinaire. Donc la famille est étonnante. Il y a également la grand-mère qui a une activité rémunératrice assez étonnante. Elle fabrique des faux escargots. C'est-à-dire qu'elle prend des coquilles d'escargots vides dans lesquelles elle met du mou de veau. Elle ajoute du beurre aillé et elle les vend comme escargots authentiques. Et avec un certain bonheur, il y a la tante qui est lesbienne et monarchiste, qui fait scandale formidable dans la famille, notamment auprès de son père, puisque c'est la sœur de sa mère. Donc, il y a tout un univers parisien, qui est l'univers de Barbès, avec les copains de la communale, bien évidemment. Il y a tout ce monde-là, pas comme tel nom.
Oui, complètement. Et le portrait le plus émouvant, c'est celui de son père. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est bouleversant, hein, ce qu'il écrit sur lui. Alors, il le décrit vraiment, enfin, comment dire, c'est comme une sorte de figure héroïque, presque un type sorti d'un roman de Victor Hugo. Hein. Tel qu'il est décrit. Et de toute façon, ce qui est frappant dans les mémoires de Ciné, c'est que même si Ciné s'est illustré comme un dessinateur enragé, enfin grosso modo comme un dessinateur qui a su brocarder l'armée, les flics, les curés, etc., tout ça fonctionne parce qu'à côté c'est quelqu'un qui aime, mais énormément, qui a un être d'affection. Et l'affection qu'il a pour sa famille est incroyable. Les détails qu'il peut avoir. Après, on lit rarement hein, des détails, même presque de l'érotique de ses parents, quoi. Il parle quasiment de la sexualité de ses parents, mais avec un amour, avec un truc. Il est resté très proche d'eux. Comme ensuite, il parle avec amour des différentes personnes qu'il a croisées dans sa vie.
La feuille de thon.
Ce qui est intéressant, c'est il grandit à Barbès. Bon, c'est le Barbès, faut bien voir que c'est le Barbès d'avant la guerre. Mmh. Hein, il est né en 28, il a 11 ans au moment où la guerre éclate. Mmh. Bon, et c'est là qu'il a son certificat d'études, d'ailleurs, à 11 ans, parce que c'était le directeur d'école qui faisait passer le certificat d'études. Et étant donné qu'on était en juin 39, que la guerre allait être déclarée en septembre, bon, qu'il n'était pas question de refuser aux gosses leur alors tout le monde a eu son certif. Bon. Et puis lui, il était en avance. Et alors, il pouvait pas travailler parce qu'il était trop en avance, quoi. Alors finalement, on l'a occupé pendant 2 ans et il a fait l'école estienne.
Alors justement, deuxième point important, sa formation, qui est une formation de graphiste, vraiment au sens artisanal du mot.
Il a aucun diplôme en dehors de son certif, ciné. Parce que l'école estienne, il a été foutu dehors avant la fin des études. Il a eu son diplôme quand il avait 80 ans. Ils ont fait une grande exposition et ils lui ont remis son diplôme. Mais il l'avait pas. Et il avait fait un faux pour faire croire qu'il avait pour trouver du boulot. Il a fait beaucoup de faux pendant l'occupation. Il était un ado, quoi, puisqu'il avait 11 ans quand les Boches sont arrivés, et il a aidé à faire des faux papiers, etc. Et puis il y a le fameux faux Sartre au procès Janson.
Voilà.
J'y vais ou pas?
Oui, allez-y. Bon,
Janson, c'était un peu le chef du réseau des porteurs de valises pro-FLN, pro-algérien, quoi, les traîtres. Et il était jugé par contumace parce que il s'était barré, bien sûr. Et il y a eu des témoignages et il fallait le témoignage de Sartre. Et Sartre se trouvait en Amérique du Sud. Et quoi, c'est Ciné qui raconte tout ça, hein. Je suis pas en train de faire l'histoire de Sartre. Et il était réticent parce que soutenir l'ennemi, quoi, c'était quand même c'est ce qu'on appelait la trahison, quoi. Mm-hmm. Et donc il fallait un témoignage de Sartre. Alors ils ont fait les gens des temps modernes ont fait un faux Sartre, un faux texte de Sartre qui a été tapé à la machine, qui ressemble à du Sartre, et puis signé. Alors c'est Ciné qui a signé et c'est ça qui a été remis au tribunal. Élu et remis au tribunal. Alors c'est vraiment le faux intégral, le faux témoignage, faux document, tout, quoi. Bon. Mais Ciné a toute sa vie été comme ça. Quand il dit je peux pas de mitraillette, mais la mitraillette il avait dans la tête et il s'en servait de sa tête, quoi. C'était pas le bon con qui est capable de tirer dans le tas et puis c'est tout. Non, lui au moins ça servait à quelque chose.
Alors on a cité l'école estienne comme je dirais passage professionnel, mais sans diplôme. Néanmoins il y apprend la technique, la construction graphique. On verra plus tard, après la guerre d'Algérie, à quel point cette formation de graphiste lui a servi. Ce qui est impressionnant, c'est de voir après son parcours de dessinateur. Puisque comme il l'a dit, on l'a entendu dans le document INA, ça n'est pas quelqu'un qui est fondamentalement un dessinateur pathologique, une sorte de la main à plume en permanence. C'est quelqu'un qui aurait pu faire autre chose. Et le dessin, Pacôme, lui est apporté par Saul Steinberg. Alors Saul Steinberg, c'est important, très grand dessinateur américain qui travaillait au trait, une espèce de trait très aérien, très fin, avec des personnages silhouettés, véritable légende du dessin au XXe siècle. Et c'est lui qui a donné l'impulsion, artistique à Ciné.
Tout à fait, c'est ce qu'il dit dans les mémoires. Il donne à Saul Steinberg le crédit, en tout cas, de lui avoir donné envie de faire ça. Mais on voit quand même aussi parmi les dessinateurs, on pourrait dire, qui l'ont précédé et qu'on sent la présence malgré tout, il y a évidemment Chaval. Il y en a eu quelques-uns, mais en même temps personne n'a fait ce qu'a fait Ciné. Il y a un truc où on a l'impression que Ciné quand même trouve quasiment à lui seul le dessin d'humour moderne.
Oui, parce que traditionnellement dans l'histoire d'un dessinateur, il y a des débuts qui sont des débuts où on apprend, on se forme, alors on copie un maître. Bon, effectivement, la Steinberg pèse énormément sur les débuts de Ciné, mais on a une inspiration, je dirais, moyenne, alors que Ciné, dès le départ, je dirais, tape où ça fait mal et met de l'huile sur le feu et du poivre dans la plaie tout de suite.
Il y a une puissance agressive du dessin dessiné dès le départ qui est extraordinaire. Hein. C'est Pajac avait réédité aussi, avait fait un recueil, le recueil des dessins il y a 3-4 ans.
Pajac, c'est le directeur des cahiers dessinés.
Oui, pardon, c'est vrai, Pajac, il faut dire les cahiers dessinés.
Frédéric Pajac.
Voilà, les cahiers dessinés avaient publié un recueil des dessins d'humour de ciné, une très bonne anthologie qui reprenait les dessins de des années 50, en gros, des années 50, des années 60, où on voit, en fait, déjà défiler tous ces prêtres, tous ces militaires, tous ces flics, et la façon dont, dès le début, c'est comme des espèces d'oiseaux de malheur qui va attraper et qui va faire subir les pires choses. C'est une espèce de jubilation à se venger contre les personnes qui peut pas supporter quoi dans ces dessins. On voit vraiment le nom de sa revue, c'était Ciné Massacre. Et il y a ce truc du jeu de massacre, il y a vraiment ce truc où on jette une boule contre des quilles quoi. Et ça c'est quelque chose qui je crois qu'il l'invente. Enfin je vois pas d'antécédent par rapport à ça. Peut-être un peu Josso
mais enfin l'école de l'assiette au beurre était pas d'une tendresse particulière,
non,
et avant cela Daumier a jamais été non plus d'une bonté extrême pour le pouvoir, qu'il soit politique ou religieux, Delfeuille de Ton. C'est vrai qu'il y a toute cette enfance à Barbès, tout ce rapport conflictuel avec la religion, ce père Bagnard, très anard, dès le départ, tout ça a nourri une espèce d'énergie vindicative, une espèce de tension polémique chez Ciné. Et quand il s'est mis au dessin, hop, ça l'a libéré.
Ciné a ses premiers sous, si j'ose dire, il les a gagnés dans la publicité. Il aurait pu faire une carrière de dessinateur publicitaire fabuleuse, quoi, comme Colin, Savignac ou des gens comme ça, quoi. Et ce qu'il en a empêché, quoi, ce sont ses idées politiques. Parce qu'à partir du moment où il s'est montré tellement extrémiste, tellement anard conséquent, que les publicitaires n'ont plus voulu de lui. Mais ça aurait pu être le plus grand publicitaire du XXe siècle.
Alors, justement, ça c'est très... Il naît en 28. Donc après la guerre, mettons 48, il a 20 ans, il démarre. Et là, effectivement, on est étonné de l'extraordinaire vogue du vedettariat qui est le sien dans les années 50. Il est partout.
Metro
Goldwyn Mayer, Schweppes, tout partout, il y a du ciné partout.
À 25 ans, il est célèbre.
Voilà.
C'est absolument incroyable. Il ne connaît 100 personnes au départ. Et alors, c'est le milieu homosexuel qui lui a mis, si j'ose dire, le pied à l'étrier. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Il s'est trouvé... Oui, parce que ses deux copains étaient des juifs son âge, des copains des 18
oui,
ans.
Oui, il en parle d'ailleurs énormément.
Il a épousé la sœur d'un des copains.
Voilà, absolument.
Et puis, il s'est trouvé... à chanter dans un quatuor de chanteurs.
Oui, un peu genre les quatre barbus ou les frères Jacques, voilà.
Oui, eux, c'était les garçons de la rue. Et pendant 2 ans, il a été un des garçons de la rue. Il chantait, bon, et là, il gagnait bien sa vie aussi. Et puis, le chanteur celui qui était le chef du groupe, quoi, qui s'occupait de tout, quoi, qui était alors un homo qui voulait, il le raconte, il y a plein de pages.
Il tente de séduire Ciné.
Il avait vraiment envie de se taper Ciné, mais Ciné, évidemment, a jamais voulu, c'était pas son genre, mais ils étaient très copains, etc. Et c'est lui qui lui a donné des adresses, des conseils de tout genre, quoi, comment se faire payer, etc., quelle porte frapper. Il s'est vraiment lancé sur ce milieu-là. Je le dis parce que on a voulu lui faire on lui a fait une réputation d'homophobe, ce qui est quelque chose de sidérant quand on voit les gens qu'il fréquentait et les gens qu'il a épousés, etc. Quoi, c'est extraordinaire. Quoi.
Alors, c'est ça qui est étonnant. Dans les années 50, on a un ciné, je dirais, grand public, qu'on peut voir dans des dessins animés publicitaires, des campagnes de publicité internationale, en France, aux États-Unis.
Ouais.
C'est un personnage qui est partout. Et en même temps, il y a le ciné qui mord. Et c'est ça qui est formidable. Il y a le ciné publicitaire et le ciné qui mord et qui mord jusqu'au sang.
Oui, et puis aussi qui rencontre également pas seulement des personnes qui l'aident pour sa carrière, mais des grands artistes et des grands écrivains. Il y a une cinémania aussi au sein des pataphysiciens, par exemple, Queneau, Boris Vian, Jacques Prévert, tous ces gens-là apparaissent dans le livre. Il a une incroyable amitié avec Léonore Fini. C'est pour Léonore Fini, je crois, c'est ce qu'il raconte dans ses mémoires, qu'il invente les chats qui vont le rendre encore plus célèbre, parce que la cinémania est dédoublée ou quadruplée par les chats de ciné.
Jimmy Tenor, un choix de Laurent Polleret pour notre playlist ciné de ce soir. Alors, il y a l'aspect évidemment familial à la fois la famille dont il est issu, avec d'extraordinaires portraits de père, sa mère, de sa tante, des grands-parents, tout ça est tout à fait fabuleux. Il y a les familles qu'il va créer, puisqu'il aura donc, on peut le dire, deux familles. Et puis surtout les amitiés. Alors là, c'est ce que vous disiez, Paco, mais c'est tout à fait épatant. Et épatant, c'est que ciné est un ami professionnel. Je veux dire, il est né pour l'amitié. Et alors là, pour le massacre aussi, mais pour l'amitié. Et là, on voit défiler un nombre de personnalités, mais à la bonne franquette, dans un rapport direct, de plein pied, d'échanges confraternels comme ça, en train de boire le coup, en train de fumer, en train de se balader. Absolument tout le Gotha français de l'après-guerre. Avec, d'abord et avant tout, j'aimerais qu'on en parle, puisqu'on parlait justement du fait du milieu homosexuel, Jean Genet. Il y a une amitié extraordinaire entre Ciné et Genet. Alors Genet étant tenté par Ciné, Ciné lui faisant comprendre que ça n'était pas vraiment son affaire, mais Genet étant tout le temps là, lui écrivant des lettres à lui et à sa femme absolument bouleversantes.
Ça fait partie des grands moments de ses mémoires, oui, les passages avec Genet, les lettres de Genet qu'on a aussi dedans, qui sont reproduites.
Il y a beaucoup de lettres qui sont reproduites.
En facsimilé, oui.
Et c'est d'une liberté de ton de Genet, et puis en même temps, Genet parlant de son homosexualité, comme on pourrait plus en parler maintenant, quoi. Il se ferait lyncher, quoi. L'homosexualité tient une grande place dans les mémoires. Et à un moment donné, il est poursuivi pour des outrages à De Gaulle. Il a Roland Dumas comme avocat. Mais tout ça, on a l'impression qu'il fréquente que des célébrités. Mais c'est des gens qui avaient 20 ans, comme lui, quoi, 25 ans. Et Roland Dumas, au lieu de dire, celui-là, il est bien, il est de la jaquette.
Il parle du juge.
Effectivement, il est de la jaquette. Bon, je le dis parce que à la radio, plus personne peut le dire. Alors je le dis, je le répète. Le gars était de la. Et alors le récit de l'audition, de Ciné poursuivi pour outrage à De Gaulle par un juge
qui devient complice.
Ça, c'est vraiment un grand moment.
Des prévenus.
C'est vraiment un grand moment du bouquin.
Absolument extraordinaire. Alors Genet est en confiance avec Ciné, ce qui fait qu'il se voit très souvent, ils passent des vacances ensemble en Grèce, ils s'écrivent tout le temps. C'est fascinant la manière dont Genet, qui est quand même pas un personnage qui offrait son amitié à n'importe qui, qui était quand même là aussi sur la espèce de distance, avec Ciné, c'est le bonheur.
Mais on a l'impression que tout le monde a envie d'être ami avec Ciné à ce moment-là. Parce que même il y a la rencontre avec Picasso.
Ouais.
C'est incroyable ça. Moi, je tombais par terre en lisant ça. Hein. Que je savais pas que Ciné avait rencontré Picasso.
Prévert le présente à Picasso. Ouais. Prévert il l'amène, je sais plus où c'était, au Tilantible, je sais plus comment ça
s'appelait.
La maison, là-bas. Et alors Picasso était en train de travailler, alors c'était Jacqueline Picasso à ce moment-là, bon, et elle leur offre apéritif, bon, puis ils attendent Picasso arrive une demi-heure après, bon. Et puis, Ciné a porté son livre, c'est son livre préfacé par Marcel Aimé, là, son premier grand livre de dessin édité par Pauvert. Et Picasso lui demande une dédicace. Quoi. Bon, et alors Ciné est complètement paralysé. Quoi. Et finalement, il fait pas la dédicace, on attend, on lui laisse le temps de la faire. Et tout ce que Ciné arrive à mettre, alors que ça faisait deux jours qu'il y pensait, c'est à Picasso admirativement.
Oui, parce qu'il est... Ils font de peur devant les monuments. Alors il y a une autre tentative. Ils tentent d'aller voir Céline, mais il arrive devant la porte et il peut pas.
Il
repart. Et il en parle un jour à Jean Paul. Tu lui dis mais t'es con. Il aurait demandé que ça à te rencontrer. Oui. Par contre, il va voir Marcel Aimé en disant à Marcel Aimé si je vais vous voir, c'est parce que j'ai eu peur d'aller voir Ciné, d'aller voir Céline.
Marcel Aimé. Pourquoi vous adressez-vous à moi? Il dit c'est parce que je voulais voir Céline. Bon, et ça fait rire Marcel Aimé qui lui a fait une très belle préface, voilà. Qui s'appelait Jusqu'à l'os. Il y a un truc que je voudrais dire là, à propos du quartier là où il a grandi. Quoi.
Barbès.
La rue du Delta, c'est entre Barbès et Pigalle. Quoi. À la libération, en 1944-1945, quand il y a la libération de Paris, il y a les soldats américains qui arrivent, comme chacun sait, et lui, il passe devant l'hôpital Lariboisière, où il y avait des blessés, des gens comme ça, et ils étaient sur la rue, mais ils pouvaient pas sortir, et il y avait des barreaux, et c'était des Noirs américains. Et il a tout de suite sympathisé avec ces soldats Noirs américains, alors qu'ils lui ont filé des cigarettes, des
fumeurs. Qu'ils lui ont surtout filé des disques.
Et ils lui ont filé des disques. Et là, il a accroché au jazz. Et là, ça a été le grand truc de sa vie, le jazz, quoi. Il est allé à New York uniquement pour le jazz.
Le seul vrai contact qu'il a eu avec l'Amérique,
c'était pour le jazz. Il a fréquenté que des Noirs américains. Le parrain de sa fille, quoi, c'était Malcolm X. Mm-hmm. Et le parrainage, si j'ose dire, la gamine, elle avait 14-15 ans, c'était Maud, qui vient de mourir, d'ailleurs. Ils ont fait le tour de la pièce en chantant When the Saints Go Marching In. C'était Malcolm X. Et puis quand Malcolm X est mort, Sinné a pleuré, mais a vraiment des vraies larmes, quoi. Il a pleuré comme un petit enfant.
Alors Sinné, éperdument amoureux du jazz, et sans doute moins amoureux du général de Gaulle.
Mais c'est vrai que maintenant je le regrette un peu, le pauvre de Gaulle. Je lui ai tellement cogné dessus, ça a été ma tête de Turc favorite pendant des années. Maintenant, quand je vois les nouveaux, je dis, ah putain, de Gaulle, il avait quand même la classe à côté. C'était un ennemi contre lequel on aimait se battre. Puis en plus, il avait le sens de l'humour. Je sais pas s'il était involontaire, mais quand il disait français, je vous ai compris, ou vive le Québec libre, vraiment, ça déclenchait chez moi, l'hilarité, parce que c'était étonnant. Ouais, c'était un personnage, c'était un peu Uburois. Moi, je l'ai toujours souvent dessiné avec une gidouille sur son gros ventre. Alors j'ai pas beaucoup d'admiration pour lui ni de respect, mais je trouve que c'était quand même, il avait une envergure qui manque au nouveau, hein, au pluriel, qu'il soit Rocard, Fabius, Mitterrand, je peux te les citer tous, j'en vois pas qu'on a la classe de Gaulle, quoi.
Ciné qui parle du général de Gaulle, et puis derrière la Marseillaise d'Albert Heller, en rappelant quand même que le texte de Martin Warnob sur Albert Heller, au dilettante, a été nanti d'une couverture de ciné, parce que ciné c'était quand même avant tout le jazz. Alors il y a aussi la grande histoire, on a parlé de son histoire personnelle, on a parlé de ses amitiés qui transformaient en amitié tous ses rapports avec autrui, enfin il était ami spontanément, il y avait... Ou haïssant, mais bon. Alors, l'autre aspect, Pacôme, c'est la grande histoire. Parce que là aussi, on a une vision de l'histoire de France au XXe siècle extraordinaire. D'abord, de toute pendant la guerre d'Algérie, de tout ce qui est l'opposition à l'État français, le soutien au FLN, les porteurs de valises, Jacques Vergès, les réseaux de soutien. Et ensuite, après, puisque Sinné a été un pied rouge, ce qu'on appelle un pied rouge, c'est-à-dire qu'il est retourné ensuite en Algérie algérienne pour devenir, on peut dire, le DIRCOM et le graphiste en chef de la compagnie algérienne des pétroles. Donc, il dessinait les tenues des pompistes, les emballages des bidons et puis les containers et tout ça. C'était dessiné avec des logos de Sinné. Et puis, mai 68.
Ouais, il y a tout ça. Alors, il y a, toute la partie sur le FLN, c'est vraiment comme on l'a jamais lu, quoi. C'est de l'intérieur et avec toujours cette incroyable drôlerie. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tous les combats l'ont rendu heureux. C'est quand même ça qui apparaît. C'est-à-dire que même les pires moments de sa vie, on peut pas les lire sans avoir une espèce de grand éclat de rire ou de grand moment de joie et ce moment-là est un moment formidable. Tout le moment avec,
il était pas feuille de Tonglin. En même temps qu'il aidait le FLN, il voyait bien ce qui s'y passait et il savait bien que ça allait mal se terminer. Son grand ami, c'est Sid Ahmed Ghazali, qui a été premier ministre, qui vit toujours, qui était chez Sinné, là, je l'ai vu il y a deux mois chez Sinné, qui a été premier ministre, etc., bon, puis qui a été viré, qui maintenant vit en exil, quoi. Mmh. Sinné a vu Ben Bella. Alors Ben Bella, il y a quelque chose d'extraordinaire. Ben Bella est pas encore au pouvoir, c'est après Évian et
donc, 62, les Algériens ont retrouvé
leur autonomie. Mais Ben Bella est à Oran, il est pas encore à Alger. Et Sinné arrive à Alger dans la voiture de Ben Bella, dans le cortège de Ben Bella, il y avait trois voitures, bon. Et il était avec Maspero, il y avait Sinné et sa femme, et Maspero.
François Maspero, l'éditeur.
L'éditeur de la gauche, bon. Mm-hmm. Et Et ils vont à Alger, mais ils savent pas si Ben Bella va prendre le pouvoir ou s'il va aller en prison. Et en prison, il est allé, mais plus tard. Et finalement, bon, ça se passe à peu près bien à Alger. Et comme il doit aller à Cuba, Ben Bella lui fait une lettre pour Castro, pour qu'il soit bien reçu, quoi, pour que, bon, une lettre assez banale, quoi. Bon, alors je vais pas vous raconter l'histoire, la rencontre avec Castro.
Qui passe par la fenêtre.
Oui, et ce qui a failli manquer, mais finalement, Castro tenait absolument à le voir parce qu'il savait qu'il avait cette lettre de Ben Bella et Castro voulait comprendre ce qui se passait en Algérie. Et c'est Siné qui lui a expliqué la situation, les querelles au FLN qui lui a donné les non, etc. Là on voit Siné ambassadeur itinérant.
Ah ouais, justement. Il y a le Siné graphique.
Tout ça sans la ramener. Hein. C'est pas le gars qui dit j'ai joué un rôle, etc. C'est toujours, on est toujours au niveau ras de terre et il vous raconte en même temps le whisky que l'autre se buvait, etc.
Oui, c'est descendre dans les bordels locaux. Les ripailles et les ribotes avec ses amis. Non, mais il y a aussi toute une histoire du Siné politique avec l'Algérie algérienne, Cuba. Une grande histoire d'amour avec Cuba au plus haut niveau. Alors Castro vient d'en parler. Et la Chine. Il y a tout son récit de voyage en Chine. D'abord le transsibérien et puis toute sa découverte de la Chine maoïste, la manière où il est obligé de rédiger un mea culpa parce qu'il a envoyé en Europe des cartes postales avec un chat qui s'appelle qui dit Mao au lieu de dire miaou et qui brandit le drapeau chinois avec sa queue. Enfin bon, voilà, ça c'est tout à fait.
Il a vraiment eu peur pour sa peau, hein. Il a en Chine là, il s'est vu disparaître. Hein. Il a vraiment eu les jetons. Hein.
En plus, il le dit quand il a peur. C'est ça qui est étonnant et qui est très émouvant. Il dit quand il a peur, il dit quand il est déçu, il dit quand il s'est trompé. Il y a quand même un grand exercice de sincérité.
Absolument.
Oui.
Et c'est ça qui est tout à fait marrant. Et tout à fait bouleversant.
Le moment en Chine, ce qui est vraiment génial, ce qui fait très peur, mais en même temps qui racontait quelque chose d'hilarant, c'est que donc il fait cette espèce de petite carte postale avec le chat qui fait Mao. Et il l'envoie dans 17 endroits différents où il est passé, quoi. C'est que, en fait, il avait préparé ses cartes pour les envoyer à ses copains quand il penserait à eux. Et pour que ça ait un peu plus de gueule et qu'on voit bien Mao, au lieu de payer le timbre à 20 yens, il prend 7 timbres à 3 yens parce qu'il a la tête de Mao dessus. Et il se fait une ligne comme ça de tête de Mao avec le chat qui fait Mao. Les Chinois, en fait, ils ont récupéré les 17 cartes parce que ils viennent le chercher à un spectacle, à la fin du spectacle, ils disent on a besoin de parler avec vous et ils se trouvent et ils disent vous les avez postés, ils donnent les 17 endroits et surtout ce qui les rend complètement fous, c'est qu'ils disent pourquoi est-ce que vous avez posté ça avec les 7 timbres de Mao à 3 alors que vous pensez simplement à un timbre à 20 yens et lui il leur explique le truc esthétique mais eux ça leur parle pas du tout, il dit vous savez que ces yens là, ça qui peut faire c'est la nourriture pour les enfants des travailleurs, hein. Vous gâchez de l'argent qui peut être utile.
Ciné mémoire, 2 tomes donc à lire évidemment d'urgence, c'est au cahier dessiné. À l'intérêt avec Ciné, c'est qu'on peut parler d'Alfred Jarry puisqu'il avait un grade important au collège de pataphysique, alors on verra lequel, et puis on peut surtout parler d'Antonin Artaud puisqu'on voit passer l'un des grands spécialistes d'Artaud, Paul Thévenin, au moment de du militantisme pro-algérien. Donc on parle maintenant d'Antonin Artaud.
En face du peuple qui fait manger à ses chevaux, à ses peuples et à ses ânes les dernières tonnes de morphine vraie qui peuvent encore lui rester pour la remplacer par des ersatz de fumée. J'aime mieux le peuple qui mange à même la terre d'où il est né. Je parle des Tarahumaras. Mangeons le peyote à même le sol. Content qu'il naît et qui tue le soleil pour installer le royaume de la nuit noire et qui crève la croix des espaces afin que les espaces de l'espace ne puissent plus jamais se rencontrer, ni se croiser. C'est ainsi que vous allez entendre la danse du Totobori.
Voilà, après les incantations d'Albert Heller, celle d'Antonin Artaud pour en finir avec le jugement de Dieu. Antonin Artaud donc est entré dans le domaine public. Belle expression, ce qui nous vaut, je le répète, toute une série de publications aux éditions donc Prairial, les nouvelles révélations de l'être, donc qui est un texte de la fin de la vie d'Artaud, aux éditions Alia Van Gogh et le suicidé de la société, et puis aux éditions Payot dans la collection Petite Bibliothèque Payot, préfacée par Paco Mthielman, Antonin Artaud, le théâtre et son double.
Oui. On m'a proposé de faire la préface du théâtre et son double. J'étais très touché. Donc j'ai dit oui. Et
très bien.
J'étais très touché. Je savais pas si j'étais
comment s'inscrivait avant et pendant et depuis Antonin Artaud dans la galaxie intellectuelle de Paco Mthielman. On connaît déjà Henri Corbin, René Guénon, Zappa, Bertrand Mandicot et ouais. Alors Artaud où il est
très haut hein, et depuis très longtemps hein, depuis très très longtemps. Ben quoi on n'est pas là pour parler de moi, mais quoi ça c'était grâce à une amie, Virginie Di Ricci, une amie comédienne qui est une extraordinaire comédienne quand elle lit à Artaud. Virginie Di Ricci m'avait fait remarquer que toute la question du théâtre et de son double chez Artaud était comme immergée par une problématique qui était en fait, il devait y avoir un moment où le théâtre, avant le théâtre grec quoi, n'était pas une question de représentation des mythes, mais véritablement comme une opération chamanique pour vivre, c'est-à-dire grosso modo de transformation de l'être, de transformation, de métamorphose de l'être et de l'atteinte d'un autre état, quoi, de transe. En gros, c'est la transe. Et elle me disait que ça évoquait pour elle la notion du théâtre égyptien, qui est quelque chose qui a été amené sur dans les textes par ce fameux chanoine, le père Eugène Drioton. Et le père Eugène Drioton, du musée du Caire, qui avait ressorti en fait des textes qui étaient lus sous les pyramides comme des pièces en fait, où des acteurs jouaient Horus, jouaient Seth, jouaient Osiris, jouaient Isis, mais quoi, ils les jouaient
et
pas.
Donc ce que Artaud voulait, c'est que de nouveau les acteurs occidentaux
deviennent
pollués par le langage et la psychologie, redeviennent des signes sacrés.
Exactement, comme des signes vivants, comme des hiéroglyphes vivants. Et c'est pour ça que le texte du théâtre et son double, progressivement, à mesure qu'il élabore le théâtre de la cruauté, apparaissent les signes qui viennent du livre des morts égyptien. Donc le cas du... Et c'est là où on doit aller très vite. Donc je vais vous laisser là-dessus. Mais en gros, toute la question d'Artaud, qui est la question en fait de l'atteinte d'un autre état, qui soit un dépassement de la représentation et qui soit véritablement entré dans une transe. Après avoir écrit sur le théâtre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir voir les Tarahumara. En réalité, le théâtre de la cruauté d'Artaud, c'est ce qui se passe à partir du moment où il part au Mexique, dans cet endroit où on ne le voit pas et où il fait ce rite du Tutuguri, où grosso modo il le décrit, son double sort de lui-même et devient autonome. Et c'est donc tout ce deuxième Artaud, le Artaud qui met même les gens qui l'écoutent en transe, qui va naître de ça. Alors c'est une vie terrible, c'est une vie horrible qu'on ne souhaite à personne évidemment, puisque c'est une vie d'asile en asile. C'est quelqu'un qui était qui a vécu des choses qu'on peut appeler vraiment sans plaisanter un l'ordre du martyr. Il a payé très très cher pour son expérience, mais il a produit les textes peut-être dont le français, à mon sens, produit le plus de résultats sur un être humain. Quand on écoute du Artaud, quand on lit du Artaud, il y a quelque chose qui se passe entre nous et le langage qui est unique.
Voilà, une expérience à tenter d'urgence, celle de la lecture ou de la relecture d'Antonin Artaud. Le théâtre et son double, c'est aux éditions Payot. On termine cette émission, bien évidemment, avec Christophe Beer.
Sexe, race et colonie, publié par La Découverte, traite des images et des imaginaires que les explorateurs, voyageurs, colonisateurs et artistes ont créés, objectivant les corps dits indigènes. à la fascination admirative pour les paradis terrestres des récits du XVIIIe siècle succèdent les paradis sexuels dévalorisants imposés par les empires coloniaux. La figure de l'autre est exotisée, érotisée, pornographiée à outrance sur tous les supports. Les auteurs mettent au jour une construction fantasmatique liée à la violence coloniale. Pour les préfaciers, il était impossible de déconstruire ce qui a été si minutieusement et si massivement fabriqué pendant près de 6 siècles sans montrer les objets du délit. Esclavage, colonisation, impérialisme et postcolonialisme dans les 5 continents, l'ambition est trop vaste. La culture populaire a souffert des choix éditoriaux, survolés dans de courts encadrés qui ne donnent pas assez à voir. Les romans de flagellation de l'entre-deux-guerres, riches en pachas sanguinaires, sont négligés, comme la bande dessinée, le cinéma exotique et les romans de gare. Le chapitre décolonisation sur les années 1920-1970 est le plus pertinent. L'autre, jadis si lointain, se rapproche. Corps exotique offert au regard des publics européens, dans les pavillons des grandes expositions universelles. Des indigènes professionnels s'exhibent en villages ethniques. Les enclos et les signalétiques des zoos humains du siècle dernier s'effacent. La Grande Guerre, qui a vu l'arrivée des colonisés dans les armées, a provoqué une irréversible proximité. Les figurants zoulous divertissent dans des villages reconstitués à Wembley. Des Sénégalais livrent des combats de lutte à l'exposition de La Rochelle. Sous prétexte de véracité ethnographique, le corps est dénudé. L'homme se doit d'être musclé au service de l'Empire et le spectacle des danses folkloriques assigne les femmes à la séduction. En 1925 à Paris, la Revue Nègre repose bien sur le cliché d'un érotisme sauvage, mais la frénésie de Josephine Baker et la grâce de Feral Benga dépassent la concupiscence coloniale et imposent une émancipation sexuelle inédite, ouvrant la voie du métissage. On peut regretter une analyse souvent à charge. Il est périlleux de vouloir absolument déceler la domination coloniale dans les supports les moins nobles, comme la pornographie. Quand elle se heurte à l'expression crue des fantasmes, l'analyse historique est menacée d'un moralisme bon genre qui va de pair avec l'usage idéologique de l'écriture inclusive. Voici 2 reproches pour ce livre colossal dont l'impressionnante iconographie a puisé dans des sources privées qu'il fallait oser montrer.
Merci Christophe Bir. Comme vous l'avez remarqué, nous n'avons pas parlé d'Alfred Jarry, jamais assez de temps, mais on en reparlera parce que dans l'extraordinaire biographie d'Alastair Brochi, il y a le récit de la première de Père Ubu qui est véritablement du théâtre artaudien 40 ans avant. Et là, le fait qu'il ait créé Artaud un théâtre Alfred Jarry, eh bien, coule de source. Merci Delphine de Ton d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Gens pour évoquer Ciné, dont je rappelle que les mémoires en 2 volumes sont parus aux éditions Cahiers des Ciné. Ruez-vous. Alfred Jarry, donc Alastair Brochi, une biographie, une vie pataphysique, cette audition Les Presses du Réel. Et puis Antonin Artaud, Le Théâtre et son Doux, préfacé par Paco Mtielman, c'est chez Payot, également chez Alia, Van Gogh ou Suidé de la Société. Et puis Les Nouvelles Révélations de Dêtre aux éditions Prairial. Toute l'équipe de Mauvais Gens, Laurent Polleret, Philippe Mercher, Séam Boutata, Claire Martin Dugard, Céline Duchesne, Paco Mtielman, Christophe Bir et François Angelier. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve samedi prochain en compagnie de l'écrivain Franck Bouys. Et d'ici là, bonne nuit à tous.